Bulles et reportages, principe actif.
Bulles et reportages.
Maintenant, tu es au milieu. Tu arrives vers le mur. Tu vois, un là et un là de chaque côté.
Nous sommes avec Ondine Morin, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes conférencière, historienne, conteuse et marin-pêcheur ici sur l'île d'Ouessant. Vous nous accueillez un peu chez vous aujourd'hui. Merci d'ailleurs de prendre ce temps de prendre le temps de répondre à nos questions. On va peut-être commencer par parler un petit peu des contes, des légendes qu'il y a ici sur l'île d'Ouessant. Voilà, est-ce qu'il y a des particularités ou en tout cas vous, quelle typicité vous avez mis dans vous trouvez en tout cas dans les légendes que vous racontez ou quand vous croisez les touristes ou le public que vous croisez?
Alors c'est vrai, ce qui est intéressant à Ouessant, c'est qu'il y a un légendaire qui est très important. En fait, il y en a des dizaines et des dizaines. Et c'est ce qui m'a tout de suite enjouée, de voir qu'on avait une sorte de mythologie ou de panthéon de personnages surnaturels si importants et si spécifiques. Donc il y a bien des liens, il y a bien des ponts entre Ouessant par exemple et le continent. Donc on a des histoires qui ressemblent aux légendes bretonnes, mais qui ont toutes leurs spécificités insulaires. Et puis parfois qui nous font voyager aussi, puisque on peut trouver des points communs avec des légendes nordiques. Donc sans doute dû à tous les échanges qu'il y avait à Ouessant autrefois. Donc voilà, j'ai à peu près.
Et quels sont justement les thèmes qu'on peut retrouver et qui sont spécifiques à Ouessant? Il y a des, on parlait hors antenne des personnages, par exemple les sirènes, qui sont un peu plus spécifiques que dans les légendes bretonnes. Quelles sont ces spécificités-là?
Oui, c'est vrai que le premier à être envoûté un peu par ces divinités ouessantines, c'est Anatole Le Braz. Au siècle dernier, qui a collecté ces histoires de Morgane et Zed. Voilà, car chez nous, en fait, ce ne sont pas des sirènes, c'est un peuple avec un nom à part entière. Donc en fait, Morgane et Zed, c'est le pluriel. Donc une sirène, c'est une Morganaise, et un homme sirène, puisqu'il existe de très beaux hommes sirènes, c'est un Morgane. Et ces sirènes, chez nous, sont de petite taille. Alors on dit qu'elles mesurent pas plus de 1 mètre de haut. Elles ont des longs cheveux blonds bouclés, donc les hommes comme les femmes, des yeux clairs, les joues roses, et on les trouve si jolies que pour nous, elles descendent des anges. Voilà. Et puis comme ça, ça a arrangé tout le monde. Et ces sirènes ont la particularité à Ouessant d'être plutôt des sirènes sauveteuses. Voilà, elles vont prendre soin des naufragés, des rescapés, les poser sur la grève, sur le littoral, pour qu'après des hommes leur viennent en aide. Et voilà, donc elles sont très belles, elles sont extrêmement gentilles, douces. Alors elles ne chantent pas. Chez nous, elles sont silencieuses. On dit juste qu'elles ont, quand elles parlent, une voix très douce. Et elles ont une autre particularité, c'est qu'elles sont extrêmement riches. Puisque à Ouessant, il y a eu énormément de naufrages, et ces Morgane et Zed, elles apprécient tout ce qui brille. Et donc, elles ont sans doute fait toutes les épaves, et elles récoltent, ça peut être des bijoux, de la belle vaisselle, des jolis tissus, qu'elles gardent. Et elles gardent tout cela dans un grand palais, qui est fait donc entièrement de nacre, et qui est situé sous la grande roche, donc le rocher qui est au milieu de la baie. Et on peut avoir la chance de les croiser les nuits de pleine lune. En fait, elles osent vraiment se poser sur les rochers. Et elles ont souvent avec elles un grand drap blanc. Et dans ce drap, en fait, il y a la partie du trésor qu'elles préfèrent. Et elles vont tout simplement le regarder sous les reflets de la lune. Elles vont en profiter pour démêler leurs longues chevelures avec des peignes d'ivoire et d'or. Et voilà, elles sont parfaitement silencieuses, donc il faut vraiment s'approcher d'elles. Voilà, il ne faut pas hésiter, en fait, et puis vous approcher de la côte pour les apercevoir. Et si c'est le cas, vraiment, voilà, une sirène ici ne vous fera pas le moindre mal. Bien au contraire, puisqu'on dit que certains ont même partagé une partie de leur trésor avec des Ouessantins. Donc la seule chose à faire, c'est qu'il ne faut surtout pas cligner des yeux, sinon elles disparaissent.
On comprend, à vous écouter, l'importance aussi, peut-être pour l'occurrence pour vous, de faire vivre ces histoires, ces légendes, avec des endroits précis. Voilà, il y a un lien entre là où les légendes et puis des différents endroits de l'île. Voilà, vous pouvez nous parler un peu de ce lien. Vous nous parliez, voilà, on peut les voir là-bas sous la roche. J'imagine qu'il y a plusieurs histoires comme ça qui s'imprègnent vraiment du lieu, des lieux.
C'est ça, c'est vraiment Ouessant, du fait que ce soit une île relativement éloignée du continent, avec, j'ai envie de dire, un climat qui est même différent que celui du continent, avec voilà, de fortes tempêtes, de l'énorme houle, de la brume plus qu'ailleurs. C'est sûr que ça a développé, donc, comme je disais tout à l'heure, une spécificité de ces êtres, mais aussi des témoignages sur les sites où on les a aperçus à Ouessant. Et l'île, même si elle n'est pas forcément très grande, hein, 4 km sur 8. Il y a quand même plus de 50 km de côte. Et donc, effectivement, pour chaque être, comme je me base surtout sur des témoignages, eh bien, il y a des endroits, des sites précis où on les a vus, où on peut les apercevoir. Et donc, chaque légende, chaque histoire est reliée finalement à la toponymie. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très insulaire, parce que sur la côte comme à Ouessant, on nomme tout. Donc le moindre rocher, pardon, a un nom qui a une signification et où il s'est passé quelque chose. Donc en fait, il y a un lien vraiment avec cette micro-toponymie, parce que chez nous, elle est extrêmement dense, et ce légendaire insulaire.
Vous parliez de témoignages, qu'un certain nombre d'histoires, de légendes sont basées sur des témoignages. Comment ça s'est transmis dans l'histoire? Qui ont été les premiers à voir tel ou tel personnage, à raconter telle ou telle histoire? Et puis comment ça se déplace dans le temps de conteur ou de conteuse en conteuse, de narrateur peut-être?
Alors à Ouessant, la particularité, c'est que on avait apparemment que des femmes conteurs. Voilà, c'était que des conteuses. Alors c'est vrai que l'île était peuplée aussi à l'année plus de femmes que d'hommes, hein, puisque les hommes naviguaient et les femmes étaient agricultrices. Et donc il y avait donc des femmes qui faisaient, alors peut-être pas que ça, mais en tout cas qui entretenaient ces histoires lors de ce que l'on appelait la Coreneza. Et la Coreneza, ici, c'est la corvée de la laine, donc c'est la traduction du breton, et c'est toutes les corvées de filage, d'ouverture de la laine, qui avaient lieu, on dit, pendant les mois noirs, misdus, d'octobre à février. Et en fait, c'est un moment où, justement, il y a moins de travail dans les champs. Et donc, voilà, il faisait nuit aussi très tôt, et on avait le temps de s'occuper de toute cette laine, puisque chaque famille avait 12 à 15 moutons. Et à chaque Coreneza, on n'avait pas besoin de l'inviter, mais c'est la conteuse qui venait quelque part pour animer. Et c'est vrai que les femmes racontent que quand elles rentraient chez elles la nuit par la suite, c'était un peu compliqué. Ouais. Et la plus connue, peut-être, parce qu'on dit que c'est la dernière, ce serait Marie Tual, justement, qui a rencontré Anatole Le Braz, donc on est début 20e. Et qui a permis à Le Braz de faire toute cette collecte. Et puis on a d'autres noms comme ça qui sortent aussi ça et là dans des ouvrages, comme Barba la conteuse. Et Barba, elle était connue pour les histoires absolument les plus horribles. Voilà, je suis incapable de les raconter. Voilà, rien que les lire me fait froid dans le dos. Donc certaines avaient aussi comme ça leur particularité. Et après, moi, je n'ai pas eu la chance de connaître comme ça de femmes quelque part qui faisaient ça. Alors peut-être depuis des générations, mais alors j'ai eu la chance d'avoir quelques collectes dans ma famille ou des voisines. Mais sinon, c'est grâce aussi à un gros travail de collecte qui a été fait comme un peu partout en Bretagne dans les années 80 et qui souvent s'est fait d'ailleurs d'abord en breton. Et aujourd'hui, on se base surtout sur ces travaux-là. Voilà, je pense pas que l'on découvre encore aujourd'hui de nouvelles histoires. Quoique des fois, dans les archives, on a loupé des trucs parce qu'elles étaient mal référencées et on tombe sur des petites choses. Voilà, parfois, c'est 2-3 lignes, mais qui nous montrent qu'il y avait encore une légende, voilà, quelque part, qui tombait dans l'oubli et qu'on peut redécouvrir ainsi. Alors aujourd'hui, moi, j'essaie de transmettre ces histoires, mais par le biais plutôt de balades, de petits tours dans Ouessant pour leur donner vie. Et j'essaie vraiment de rester fidèle à la manière dont on me les a racontées ou lorsque je les ai retrouvées transcrites, voilà, pour ne pas trop édulcorer, ne pas trop modifier, et ainsi qu'elles aient encore, enfin, tout leur sens, c'est peut-être compliqué parce que beaucoup de choses ont changé depuis un siècle, mais qu'elles retrouvent quand même un sens par rapport à Ouessant.
En discutant, en préparant un peu cet échange, vous nous avouiez, en tout cas vous nous glissiez que vous aviez vous-même aussi inventé certaines histoires, vous avez pu les écrire. Quel lien peut-être entre les histoires qu'on vous a racontées, qui sont racontées ici, que vous racontez, et les vôtres à vous, enfin, qu'est-ce qui change un petit peu? Est-ce que vous nous parlez un peu de la différence entre les deux?
Je pense qu'il est plus facile peut-être de lire mes histoires lorsqu'on connaît un peu le légendaire ouessantin, parce que je me base sur des noms d'êtres, voilà, que c'est bien de connaître un peu, savoir à quoi ils ressemblent et ce qu'ils font. Voilà, je pense par exemple aux Morganezed, ou il y en a d'autres, les Viltansou, qui sont des sortes de korrigans insulaires. Et après, le lien, c'est que quelque part, quand on est né à Ouessant et qu'on nous a raconté ces histoires, on se rend compte que finalement, chaque rocher, chaque stang ou bois ou lavoir peut donner lieu à des histoires. Et donc, pourquoi pas perpétuer ce légendaire avec des monuments plus récents, comme voilà, les phares, qui sont quand même très présents à Ouessant, mais qui, pour certains, ne datent que des années 30, donc n'ont pas pu avoir un légendaire ancré comme ça au fil des siècles. Mais finalement, j'ai repris la tradition de donner vie un peu à tout ce qui peut être très minéral ou très naturel à Ouessant, et de prêter âme comme ça à tout ce que l'on peut voir, tout ce que l'on peut côtoyer quand on vit sur l'île ou qu'on travaille dans les parages de l'île.
Et du coup, vous avez aussi une activité de marin-pêcheur qui est plus récente, d'après ce que vous nous avez dit. Est-ce qu'il y a des choses dans cette activité-là qui vous inspirent justement pour pouvoir raconter, ou est-ce que vous pensez à ces légendes quand vous êtes en mer, par exemple ?
C'est sûr que c'est très présent, parce que comme on le disait, les histoires sont liées à des endroits et ces sites, j'y passe. Et je pense notamment à une histoire de Barba la conteuse qui est absolument horrible, sur un rocher qui, pour moi, quand je le prononce déjà, me fait un peu peur, mais voilà, c'est du breton, Menarfrout. C'est un endroit où l'on pêche. Et il y a une histoire absolument abominable de sirène qui agonise. Et en fait, sur ce rocher, il y a encore, là ça a été changé l'année dernière, mais il y avait un piquet pour indiquer un danger isolé. Et en fait, ce piquet était complètement tordu et rouillé par, tout simplement ici à cause des aléas de la marée ou autre. Et en fait, il y avait un effet, mais qui faisait froid dans le dos. Et le fait, quand on dit, bon, aujourd'hui on va à Menarfrout, voilà, je me dis, ouais, ok. Mais maintenant, dans mon esprit, c'est une image plus poissonneuse ou réjouissante parce qu'on va en journée. Mais par contre, c'est un endroit où il y a un effet de courant absolument terrible. Et quand on passe la nuit et qu'on ne le voit pas, ou que la houle rentre ou autre, et qu'on passe Ménarfrout, ouais, c'est toujours un peu froid dans le dos. J'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose à cet endroit-là. Je me dis que cette sirène, voilà, est-ce que c'est une sirène qui est morte là, de quelle manière, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a fait naufrage et qui son aide s'est transformé en sirène et bref, et voilà. Mais en fait, ouais, je fais le lien puisque j'arpente le secteur de temps en temps. Donc c'est vrai que on y pense. On y pense.
Bulle et reportage. Thank you.
justement, pour faire le lien entre également entre voilà votre activité de marin pêcheur et celui de conférencière ou conteuse, je sais pas celui que le terme que vous avez envie de choisir, mais moi ce que j'entends là-dedans, c'est qu'il y a un réel attachement à l'île d'Ouessant chez vous et la nécessité aussi de maintenir une activité économique et culturelle sur l'île, que ce soit aussi bien pour vous, mais aussi pour voilà. Pour l'île en tant que telle, voilà, il n'y a pas de question forcément au bout, mais peut-être si vous voulez compléter ou abonder dans ce sens, ou à l'inverse contester aussi.
Non, c'est exactement ça. Il y a une volonté de transmettre quelque chose. Alors des fois, on me dit, vous êtes un peu un passeur. C'est vrai que j'aime bien ce terme parce que voilà, ça passe et puis ça arrivera peut-être à quelqu'un qui les interpréterait différemment ou qui les interprétera ou qui fera ça après moi aussi. Enfin, j'aime bien parce que ça continue à vivre avec ce terme-là. Et passeur, j'aime bien aussi parce que en fait, nous, on fait que passer. Et ces histoires, parfois, elles ont des siècles. J'en ai qui ont peut-être 5-6 siècles. Et c'est fou. Enfin, la route qu'elles ont fait de bouche en bouche pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et souvent, j'en suis presque émue de les raconter tellement elles sont anciennes. Et c'est assez chouette. Donc, je dis que ces histoires, les connaître, ça, sur l'île, pour moi, c'est, comment dire, c'est aussi ce qui a fait mon choix de rester vivre ici, c'est qu'on avait une terre qui, par ses, une île qui, par ses histoires, est très vivante, finalement. Donc, il y a forcément un attachement. Et ne pas les garder pour soi, c'est extrêmement important, parce que, voilà, il faut qu'elles continuent. C'est comme un livre. Voilà, certains me disaient, voilà, une fois qu'il est écrit, après, c'est, lui, il suit sa destinée. Et ses histoires, finalement, je pense que c'est pareil. Et après, voilà, quelque part, il faut bien vivre à Ouessant. Donc moi, ça me permet, voilà, d'avoir aussi des petits revenus et que les gens qui arrivent à Ouessant aient aussi le choix de pouvoir aller à la rencontre de ces histoires. C'est vrai que maintenir des activités culturelles sur des sites où, si vous vous baladez, vous verrez rien. Enfin. Si vous n'avez pas la transmission orale ou autre, il peut vous paraître, je ne sais pas, enfin, vous n'allez pas voir tout ce que vous pourrez voir si on vous a transmis des données, quoi. Donc j'aime bien dire, dans d'autres conférences, que moi je donne juste un peu une lecture de paysage, une lecture du site, qu'elle soit plutôt historique ou légendaire. Et après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent, mais ça peut effectivement procurer un attachement. Et ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, on peut revoir les gens. J'ai un taux de fidélité qui est assez important, je trouve, d'une année sur l'autre. Et puis parfois, il y a même des gens qui m'ont dit, voilà, on a eu un coup de cœur, on a acheté une maison ici. Là, vous nous avez expliqué beaucoup de choses. Et qu'est-ce que nous, on peut faire à notre échelle pour que l'île, elle continue? Parce que, effectivement, avec une île où il n'y a plus aucune, quasiment plus aucune activité du secteur économique, notamment primaire, alors sauf la pêche, mais c'est de toutes petites activités. Voilà, ça peut paraître un peu amer, âpre ou une île du passé, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est de la faire revivre, quoi. Qu'elle a toujours une âme et elle conserve. Et ce qui est énorme, c'est justement cette base de légende. Qui est extrêmement important. C'est-à-dire que voilà, je peux faire jusqu'à 2 balades en utilisant une dizaine d'histoires à chaque fois, mais je crois que je pourrais en faire 50, en fait. Parce qu'il y a des petites choses où, est-ce qu'une légende, est-ce un fait divers, est-ce. Mais c'est extrêmement dense, finalement, par rapport à la taille de cette île.
Peut-être dernière chose en guise de conclusion, votre regard un petit peu sur l'évolution, la réalité, vous nous en avez un petit peu parlé des activités économiques sur l'île d'Ouessant, notamment au regard de la pêche, peut-être est-ce plus compliqué qu'à une époque, par exemple, on pêche pas autant qu'avant, on pêche pas tout à fait les mêmes espèces de poissons, un peu comment ça, selon vous, comment ça a évolué dans le temps, notamment au regard de la pêche, mais plus globalement sur l'île d'Ouessant, et comment vous voyez un petit peu la suite?
Oui, ici, ce qui est fou, c'est de penser à la vie à Ouessant il y a un siècle, puisqu'il régnait quasiment une autosuffisance. Voilà, peu de choses étaient importées. C'était juste de l'huile pour les lampes, des bougies. Mais après, on avait vraiment une polyculture vivrière qui permettait aux familles de rester ici. Puis, nombreuses familles, puisqu'il y a eu jusqu'à 3000 habitants. Et puis avec une activité à côté de pêche pour... Alors souvent, c'était juste pour sa famille, hein, ou alors de vrais pêcheurs professionnels tels que mon grand-père, voilà, donc au début du 20e. Ce qui est fou aujourd'hui, c'est qu'on est passé à un contexte contraire, c'est-à-dire que tout est importé. Voilà. Et peu de choses qui viennent d'ici, eh bien, ça reste effectivement du poisson, des crustacés, ça peut être du miel. Mais je crois qu'on est sur les trois seules denrées produites à Ouessant. Après, ce qui nous fait garder espoir, c'est que finalement, ça a été fait et ça a fonctionné. Donc il faudrait trouver un modèle, alors est-ce qu'il sera économique, culturel, mais pour... peut-être retourner vers l'autosuffisance, parce que c'est quand même fou aujourd'hui d'importer autant de choses. Et puis quand on pense à la fragilité aussi du service public ou autre, ou au coût de ces transports, ou... donc voilà, c'est là où on garde espoir, parce que finalement tout est à refaire et le modèle existait. Après, pour ce qui est de la pêche, je vois mon grand-père, il utilisait des techniques assez durables, puisqu'il pêchait beaucoup à la ligne, finalement, comme nous. Et puis, il mettait son bateau à l'eau en avril-mai, et il le relevait en septembre-octobre. Alors ça, c'était uniquement à cause de la météo, et qu'on a une île qui n'a pas de vrai port abrité, donc c'était compliqué pour son matériel. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit que tout l'hiver, c'est la période de reproduction des poissons. Et si on ne les pêche pas à cette époque-là, on a plus de chances qu'il y en ait de plus en plus. Et donc finalement, nous, avec mon mari, on a mis en place ces deux mois de repos biologique qui sont février-mars, alors qui sont obligatoires sur certaines espèces, mais qu'on s'est imposé sur d'autres. Parce qu'aujourd'hui, il est incohérent de pêcher du poisson grainé ou qui se regroupe en frayère, parce qu'il est, ben voilà, il est en pleine reproduction. Alors, il est très vulnérable, hein, il est beaucoup plus facile à pêcher, mais voilà, si on veut que les ressources comme ça, halieutiques, n'atteignent pas toutes des points de non-retour, il est important, voilà, de faire le minimum, et c'est au moins, je pense, de ne pas pêcher ce qui est grainé. Alors, je pense aussi aux homards qu'on remet à l'eau. Alors voilà, parfois c'est des femelles, hein, des belles femelles de 2 kilos, mais bon, bah, c'est l'avenir, quoi. On s'est imposé des choses, hein, parce qu'il n'est pas interdit de les pêcher. Mais voilà, puis en faisant une pêche plutôt à la ligne, on arrive à avoir quand même du très beau poisson, avec une reconnaissance au niveau de sa qualité, ce qui nous permet quand même de faire moins de tonnage, mais de meilleure qualité, et avec un revenu qui nous convient. Donc ça, après, on s'est imposé ça, mais c'est par rapport à une philosophie de vie et un constat que l'on fait depuis 7 ans sur la pêche. Hein. On voit qu'il y a une diminution. Donc déjà, sur un siècle, elle est importante, mais sur 7 ans, elle a on la ressent.
Très bien, merci à vous Ondine Morin, voilà, de nous avoir accordé un peu de temps. On rappelle que vous êtes conférencière, historienne, conteuse et marin-pêcheur ici sur l'île d'Ouessant. Merci à vous Ondine.
Merci, bon retour.
Nouvelles et reportages, principe actif.